Joël Zask, vous avez écrit un livre sur l'art public, Outdoor Art, la sculpture et ses lieux. Pourquoi avez-vous senti le besoin de vous pencher sur la question de l'art public?
Alors, j'écris ce livre en conservant l'anglais outdoor parce qu'il y a le mot porte et que je m'intéresse généralement à ce qui se passe dehors, qui ne se passe pas dedans. Quand on franchit justement la porte, quand on s'expose aux intempéries, lorsque on va dans la nature. Et cette différence entre le dedans et le dehors a très peu été explorée en philosophie, mais je dirais qu'elle a aussi assez peu été explorée en art, parce qu'on tend à confondre art public et art dehors, c'est-à-dire à s'intéresser finalement à l'art qui est placé dehors du point de vue de la commande publique, ou du point de vue de ce qu'il fait aux citoyens, ou du point de vue du besoin politique qu'il remplit. Par exemple, il peut illustrer le pouvoir, il peut orner la domination de symboles plus attachants que ceux de la domination elle-même. Mais par contre, on ne l'interroge pas du point de vue du dehors. Et ça m'a semblé important, justement, d'explorer l'art de ce point de vue. Je dirais par ailleurs que, dans ma démarche, l'art est un bon poste d'observation concernant les pratiques politiques. C'est de cette façon que je l'ai abordé précédemment dans un autre livre qui s'appelle « Art et démocratie ».
Quels sont les principaux enjeux auxquels doit faire face l'art public? La question du lieu?
Alors, il y a art public et art public. Comme je l'ai indiqué précédemment, ou sous-entendu, il y a un art public qui a été ou qui est dévolu à la célébration du pouvoir, au fait de rendre le pouvoir visible, au fait d'honorer le commanditaire, au fait également de donner, c'était le cas de l'art nazi, de l'art fasciste, de l'art stalinien, le fait de donner aux masses une image dans laquelle elles reconnaissent leurs constituants essentiels. On a toutes sortes d'usages de l'art public, mais l'art public, en ce sens, doit être absolument considéré. Et si je me suis intéressée à l'art public, c'était justement pour poser la question de qu'est-ce qui, dans l'art public d'une démocratie libérale, qui est le régime dans lequel on vit et qu'on voudrait voir persister, doit être fondamentalement distingué de l'art public au premier sens du terme. L'art public en démocratie n'est pas un art qui est dévolu aux mêmes fonctions que l'art public nazi ou stalinien. Donc qu'est-ce qui doit les distinguer? Et c'est une interrogation, je pense, qu'on n'a peut-être pas suffisamment pris en considération et qu'on ne s'est pas suffisamment posé.
Celui qui écrit sur l'art a-t-il un dessein, une mission?
Je pense que la philosophie a produit beaucoup de textes sur l'esthétique, c'est-à-dire sur la réception de l'œuvre d'art, et puis plus généralement sur la formation du goût et sur le jugement esthétique. Qui d'ailleurs peut avoir comme objet l'art ou autre chose. En général, par exemple, dans le texte de Kant, il est beaucoup question de paysages, de quelques oiseaux et de quelques perroquets. Il est très peu question d'art, soit dit en passant. Mais en revanche, il y a assez peu d'écrits sur, non pas l'esthétique, mais l'artistique. Et c'est ce point de vue, personnellement, qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire que je ne veux pas en parler en général, mais il me semble qu'écrire sur l'art en tant que philosophe, c'est écrire sur un agir artistique, sur un faire artistique, et sur tout ce que signifie pour les citoyens ordinaires, pour les gens privés et publics, pour la société, aménager des conditions où la liberté qui est en jeu dans l'agir artistique est réalisable.
Comme philosophe, comment abordez-vous l'art contemporain ?
D'abord, je l'aborde en tant que personne comme vous et les autres, c'est-à-dire non comme philosophe. Je pense que la philosophie a un rôle à jouer, mais que ce rôle, elle va le construire à partir de l'expérience ordinaire. Enfin, je suis un peu héritière du pragmatisme, et c'est une conviction qui est très ancrée dans le pragmatisme. J'aurais tendance à considérer que mon activité de philosophe est centrée sur le dégagement de ce qu'il y a de valable dans notre société actuelle et sur la critique de ce qu'il y a d'insupportable, en tout cas à mes yeux, mais il faut le justifier, ça fait partie de ce travail dans notre société actuelle. Or l'art me semble, encore une fois, une activité absolument essentielle, et c'est de ce point de vue que je l'aborde, c'est-à-dire je l'éprouve comme personne, comme être social, je l'éprouve comme une activité centrale dans une société. D'ailleurs, on voit bien que pour mettre au pas une société, il suffit de lui dénier toute fonction artistique, et pour, asseoir un gouvernement autoritaire, despotique ou totalitaire, il faut commencer, les gouvernants le savent très bien, il faut commencer par supprimer les artistes et la création artistique.
La philosophie donne-t-elle des clés pour aborder l'art contemporain ?
Je ne le pense pas. Franchement, je crois que la philosophie n'est pas une discipline particulièrement supérieure aux autres en ce qui concerne l'art contemporain. Cela dit, je pense que c'est plutôt l'art contemporain qui donne des clés à la philosophie. C'est-à-dire qu'il y a, à ma connaissance et dans mon expérience, toutes sortes d'expériences artistiques qui sont très en avance sur des expériences qu'on fait dans d'autres champs, y compris dans la philosophie. Je ne veux pas dire comme Hegel que la philosophie vient toujours trop tard et qu'elle peint du gris sur du gris, mais tout de même, l'exercice philosophique qui est reconnu en tout cas par l'université et qui donne des points pour les classements internationaux n'est pas forcément très utile pour l'art. Cela dit, il me semble qu'un dialogue fructueux peut toujours s'engager et que les artistes ont intérêt à lire des philosophes. Ils ont intérêt à lire des philosophes, non pour comprendre ce qu'ils font ou pour comprendre ce qu'est l'art, mais pour accéder à une culture commune qui est peut-être, dont l'articulation est peut-être plus du domaine du travail du philosophe, qui justement contribue largement à créer l'architecture culturelle d'une société donnée.
Quelle est la principale fonction d'un écrit sur l'art ?
Personnellement, je ne peux pas en parler en général en si peu de temps, mais j'ai un goût très prononcé pour les écrits sur l'histoire de l'art. Et il me semble que ce qui se fait dans l'écrit est de l'ordre de la reconstruction historique, que ce soit à un niveau ou à un autre. C'est-à-dire qu'une œuvre d'art, telle qu'on la voit dans un musée, dans un aréna, dans une galerie, est un donné, un résultat, quelque chose qui est là et dont la factualité, d'ailleurs le face-à-face factuel, importe. Mais cela dit, pour entrer en dialogue avec cet objet, il est nécessaire d'interroger son passé, d'interroger ce d'où il vient, ce qu'il nous a fait, ce par rapport à quoi il a été élaboré. Les autres pièces avec lesquelles il entre en résonance, les motivations de l'artiste, éventuellement le mouvement dans lequel il s'inscrit, etc. Et donc tout cela, évidemment, se développe dans un discours qui est d'ordre narratif, qui peut être analytique, qui peut être conceptuel, qui peut être comparatif, qui peut être métaphorique, qui peut être fictif ou tout ce qu'on voudra. Mais en tout cas, l'écrit nous fait rentrer dans une dimension qui est celle du déroulement, ce qui tient à la nature même de l'écriture, et qui me semble un complément vraiment utile et d'ailleurs très plaisant à l'art, pour éviter justement de s'en tenir à cette factualité de l'œuvre ou du processus face à nous.
Le regard de celui qui écrit sur l'art se fait la plupart du temps a posteriori. Il pose alors un regard esthétique. Qu'en pensez-vous ?
Il y a toutes sortes de regards qu'on peut poser sur l'art en fonction justement du moment où on pose les yeux sur le processus complet. C'est-à-dire que j'aurais tendance à penser que l'esthétique et l'artistique peuvent être considérés comme complémentaires. C'est-à-dire que s'intéresser à l'art, c'est s'intéresser à la production, on va dire, ou l'existence de quelque chose, qui peut être un objet, qui peut être un concept, qui peut être ce qu'on voudra, mais qui s'inscrit dans une durée. Et cette durée est quelque chose de très particulier, c'est-à-dire que l'œuvre d'art, par définition, je dirais, n'est pas inscrite dans une durée automatiquement, mais c'est ce qui crée une durée. C'est un objet qui est doté de la capacité de durer et de s'installer dans un temps qui va dépasser les conditions de sa production. Et du coup, on peut imaginer comme un continuum entre la fabrication de l'objet d'art et sa réception. C'est-à-dire que l'artiste, lorsqu'il valide par exemple une œuvre d'art, le fait au moment où il considère que son objet, quel qu'il soit encore une fois, pourra rencontrer un public sans aucune limitation. Mais en même temps, le public, quand il reçoit, si on peut dire, l'œuvre d'art, crée ses conditions d'existence future. Disons, en appréciant l'œuvre d'art, fabrique sa durée pour d'autres publics et vers d'autres histoires qui sont celles au moment où il la valide.
Pose-t-on un jugement de valeur sur une œuvre ? Peut-elle être réussie ou ratée ?
Alors, absolument, oui. Il y a des œuvres réussies, il y a des œuvres ratées. Le problème, c'est de trouver un peu les critères et que ces critères ne soient pas subjectifs. C'est-à-dire que, d'une part, pour savoir si une œuvre est réussie ou ratée, il faut quand même passer du temps en compagnie de cette œuvre. Il ne faut pas se précipiter sur un jugement tout fait ou sur des préjugés. Cela dit, ça fait vraiment partie, là en l'occurrence, de mon travail, d'avoir essayé de dégager des critères de distinction entre l'œuvre réussie et l'œuvre ratée. C'est une question que je me pose. Et en ce qui concerne l'art public, il y a toutes sortes de manières de répondre et toutes sortes de critères à mobiliser. En particulier, on peut examiner le degré de cohérence qu'il y a entre le discours de l'artiste, qui peut être intéressant à consulter, bien que je ne considère pas que l'artiste est une autorité que le discours de l'artiste est une autorité sur l'œuvre. Mais cela dit, parfois, le discours de l'artiste est une indication utile. On peut considérer donc ce qu'il dit. On peut considérer les prétentions de l'œuvre qui sont inscrites dans l'œuvre, qui sont visibles dans celle-ci. On le voit à travers la forme, le matériau, les couleurs, etc. Les signaux qui sont faits à la mode ou à l'époque. Et puis aussi considérer la manière dont l'œuvre fonctionne effectivement, que ce soit dans le temps ou que ce soit dans l'espace. Et là, il arrive très souvent, quand on se munit de ces différents critères, qu'on aperçoive des contradictions manifestes entre, par exemple, la prétention de l'œuvre et ce qu'elle fait, effectivement. Et c'est ce genre de choses que je fais dans mon observation des œuvres.
Pourquoi vous sentez-vous interpellée en tant que personne par l'art contemporain ?
L'art a été pour moi une pratique pendant un certain nombre d'années. Et je pense que cette pratique artistique que j'ai pu développer sans finalité professionnelle, mais qui m'a vraiment engagée très profondément, a beaucoup contribué à me faire évoluer aussi dans mon écriture en tant que philosophe. Et peut-être même en tant que citoyen ordinaire, en tant que mère de famille, en tant que professeur de mes étudiants. J'ai beaucoup appris dans la pratique artistique, par l'intermédiaire de la pratique artistique, y compris, même s'il n'y avait pas de finalité professionnelle, en termes d'adresse à un public. Parce que je n'ai jamais fait, ce que j'ai fait n'est pas resté dans un tiroir. Je l'ai montré, j'ai même, je crois, bassiné les gens avec ce que je faisais. Je l'ai montré, j'ai même fait une ou deux expositions. J'étais très avide de le partager, ce qui veut dire que tout ce que j'ai fait, c'est comme en philosophie d'ailleurs, je l'ai fait avec l'idée d'une communauté future, pour parler comme Peirce, c'est-à-dire avec l'idée d'une réception générale, bon, possible, c'est-à-dire en le faisant le mieux possible.
La perspective que se donne le philosophe est-elle celle d'inscrire l'œuvre dont il parle dans un contexte général ?
Alors, je ne dirais pas inscrire l'œuvre dans un contexte plus général, mais d'abord parce que je pense que l'œuvre, ce qui fait qu'une œuvre est une œuvre, c'est qu'elle ne s'inscrit pas, justement, elle se détache. Elle fait disjonction, elle est disjonctive, comme disait Ferrat ou Carl André. Hein. Il y a quelque chose de disjonctif dans l'œuvre par rapport à son contexte. Et en l'occurrence, aussi, par rapport au mot contexte, j'aurais quelques réticences et je parlerai plutôt de lieu, justement. C'est-à-dire que je considère que mon travail, celui que j'ai fait notamment pour Outdoor Art, la sculpture et ses lieux, était un travail justement de mise en perspective des lieux que crée la sculpture. Là, en l'occurrence, il s'agissait de sculpture. En l'occurrence, donc, contextualiser l'œuvre d'art, ça voudrait dire retrouver tous les paramètres qui la rendent peu surprenante, c'est-à-dire qui la rendent attendue. Le contexte, c'est ce qui détermine ou ce qui conditionne une chose à être ce qu'elle est. En l'occurrence, le lieu n'est pas du tout de cet ordre. La sculpture crée des lieux, la sculpture se fait par rapport à des lieux, si on parle de sculpture, mais ça serait vrai de n'importe quelle forme artistique, et ces lieux ne sont pas préexistants, justement. Ces lieux, d'une certaine façon, sont qualifiés par la sculpture, c'est-à-dire ils revêtent des caractéristiques nouvelles en fonction de l'œuvre qu'ils accueillent, mais en même temps, l'œuvre d'art ne peut faire ça au lieu que dans la mesure où il se connecte à des paramètres qui sont déjà là. En l'occurrence, il y a une interaction entre le lieu et la sculpture, et il en provient un nouveau lieu, ce que Carl André appelait une sculpture lieu.
Comment le philosophe est-il proche de l'artiste ?
Alors, en général, les philosophes ne sont pas proches des artistes, parce que, comme on l'a dit, les philosophes s'intéressent davantage à l'esthétique qu'à l'artistique, davantage à la réception qu'à la fabrication, à la production. Il y a quand même une sociologie de l'art, mais la sociologie de l'art, elle s'intéresse davantage aux conditions de la profession artiste, donc elle n'est pas très proche de l'art non plus. Mais la manière de s'approcher de l'art, c'est d'aller voir des œuvres. Et par exemple, quand j'ai fait Art et démocratie, ce livre qui date de 2003, je voudrais préciser que j'ai beaucoup parlé avec des artistes, j'ai consulté une cinquantaine d'artistes pour faire ce livre, dont les propos d'ailleurs sont cités et sont le matériau principal de ce livre, mais on a toujours parlé en présence des œuvres. C'est-à-dire que j'étais dans des ateliers, je demandais aux artistes d'étaler leurs œuvres, de les montrer, et on était trois d'une certaine façon. Il y avait les œuvres, il y avait l'artiste et il y avait moi. Et il s'est créé une espèce de triangulation comme ça qui faisait que ni l'artiste ni moi ne pouvions oublier les œuvres. Et en même temps, on mettait à l'épreuve les œuvres au contact, en quelque sorte, de ce qu'on était en train de dire. C'est-à-dire que l'œuvre devenait une espèce de support de la conversation, et ça m'a semblé très important. Donc je crois que les philosophes rencontrent les œuvres comme n'importe qui, c'est-à-dire en allant les voir, en les fréquentant, et en dessillant ses yeux, en les regardant d'une manière neuve, en essayant de les voir avec toute la subtilité requise.